Vous écoutez France Culture.
Deuxième étape du Bombay Mix, c'est l'heure du débat que j'ai intitulé « La lente révolution des mœurs ». Avec plus d'un milliard d'habitants, l'Inde est un pays où hommes et femmes se croisent, se rencontrent, se marient. Ici comme ailleurs, me direz-vous. Ici, pas tout à fait comme ailleurs. Ici, on parle encore de dot, de mariage arrangé. Violence conjugale aussi. Une loi récente permet désormais aux femmes en cours de séparation de continuer à vivre dans leur maison. Dans un pays aux traditions patriarcales, c'est une avancée. Les tabous commencent à tomber les uns après les autres. Ceux liés à l'homosexualité, au sida, sont encore importants. Mais là aussi, les choses bougent. Pour aborder toutes ces questions liées à la vie intime des Indiens et des Indiennes, j'ai convié à ce micro Florence Laroche-Lissereau, professeure de droit à l'université Évry-Val-de-Marne, Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski, maître de conférence à l'INALCO, et Emmanuel Elliot, géographe à l'université du Havre. 19 millions d'habitants à Bombay, je répète ce chiffre depuis le début de la semaine. J'en ai un autre, tiré d'un de vos articles, Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski. La densité dans le Grand Bombay, tenez-vous bien, c'est 27 000 habitants au kilomètre carré, et je pourrais même accroître ce chiffre si je m'occupe du chiffre dans les bidonvilles, 120 000 habitants au kilomètre carré. Comment c'est possible que autant de gens tiennent sur une surface aussi petite, et est-ce que c'est cette multitude que vous avez rencontrée quand vous êtes arrivé la première fois à Bombay ?
Le choc, lorsqu'on arrive à Bombay, et entre autres celui de la foule indienne, absolument extraordinaire dans les rues. Cette densité, effectivement, est une des plus importantes au monde, dans les bidonvilles, et en particulier dans un bidonville maintenant connu, celui de Dharavi. Il est probablement l'une des densités, la plus grande densité au monde. Cela tient avant tout aux conditions morphologiques, de Bombay, qui se situe coincé, on va dire, dans une péninsule et qui s'est développé jusqu'à au nord, hein, jusqu'à 63 km pour former, donc vous avez parlé de Greater Bombay, cette grande municipalité telle qu'elle est définie aujourd'hui.
Donc c'est une espèce de grand triangle
qui... Un gigantesque triangle, voilà, qui finalement n'a pour s'échapper que l'interland du Maharashtra et ces deux grandes lignes de trains locaux. Effectivement, qui tout à fait aujourd'hui qui propose une densité qui fait que l'espace, la question de l'espace devient absolument vitale pour ceux qui y habitent.
Emmanuel Elio, une première vision de Bombay, vous, quand vous avez débarqué, c'était où ? C'était à Churchgate, c'était à Viti, c'était à l'aéroport ?
Non, c'était à l'aéroport et j'étais en transit vers l'Inde du Sud et j'avais qu'une envie, c'était effectivement quitter cette ville dans un premier temps. Et après, en y revenant, on apprécie beaucoup cette ville, il y a un attachement, je pense, à cette ville.
Florence Laroche-Gisereau.
Le trajet entre l'aéroport et le centre-ville, donc on traverse un énorme bidonville et à chaque fois je pensais, mais quelle impression déplorable, les étrangers doivent avoir de l'Inde.
Alors je précise que maintenant le bidonville on ne traverse plus, on le survole, oui. Puisqu'il y a un flyover, signe de la modernité indienne, des rues, des routes, pour que toutes ces voitures nouvelles, on en a parlé hier dans le débat sur l'économie, puissent rentrer dans le Grand Bombay et ensuite dans le Bombay plus historique. Donc on le contourne, on n'a presque plus les odeurs dont parlait V.S. Naipaul quand il est arrivé, quand il a écrit l'Inde, un million de révoltes. Tous ces gens, cette multitude, à un moment, il faut bien qu'ils se rencontrent pour constituer des familles. Alors, dans le Bombay Mix depuis lundi, je cite des romanciers indiens qui ont travaillé sur Bombay ou sur l'Inde, et j'ai sélectionné pour le débat d'aujourd'hui un extrait du grand roman indien de Sachi Tharoor. Voilà ce qu'il dit.
Nous sommes un pays de traditions. De traditions auxquelles même les Anglais n'ont pas osé toucher. Dans nos coutumes, il existe plusieurs manières de donner une fille en mariage. Nos textes anciens nous disent qu'elle peut être présentée, parée et munie de sa dot à un invité, ou bien échangée contre un nombre convenable de vaches, ou encore avoir la permission de choisir son compagnon. En pratique, certains ont recours à l'argent, d'autres exigent des vêtements, des maisons ou des terres. Certains cherchent à s'assurer la préférence de la fille, d'autres la drague ou la drogue. D'autres encore sollicitent la permission des parents. Dans l'Antiquité, Les filles étaient offertes en cadeau aux brahmanes pour les assister dans l'exécution de leurs rites et rituels. Mais dans tous nos livres sacrés, les plus grandes louanges vont au mariage d'une fille enlevée de force à une royale assemblée. Je me prévaux de ces louanges. J'emmène ces demoiselles avec moi, que cela vous plaise ou non. Essayez donc de m'en empêcher.
Est-ce que Sachi Tharoor décrit Florence Laroche-Tissereau la tradition ou il explique l'actualité aujourd'hui de la constitution, des mariages et des familles?
Il décrit la tradition, il décrit exactement le code de Manu, qui est donc un ancien texte religieux fondateur de l'hindouisme, dans lequel donc sont décrits les 8 formes de mariage. Il y en a 4 qui sont des mariages vertueux et 4 des mariages honteux. Les mariages vertueux supposent que la jeune fille soit donnée au mari gratuitement et qui plus est parée, c'est-à-dire avec des bijoux, des vêtements, voire peut-être de l'argent. Tandis que le père qui vend sa fille contre de l'argent, donc c'est l'inverse, fait un mariage honteux et c'est tout à fait évidemment déconseillé.
Alors on parle bien de mariage dans la communauté hindoue. Précisons aussi
Absolument.
Que le code civil en Inde, ça n'existe pas et qu'on se marie et qu'on divorce selon les rites et les coutumes de chaque communauté. Vous faites nom de la tête, Marie-Caroline Saglio.
Il y a ce qu'on appelle des personal laws qui correspondent plus ou moins à nos codes civils, sachant qu'en Inde, il y en a donc 3 qui ont été, lors de la constitution, disons, gardés, on va dire. Le Hindu Code Bill qui constitue donc la personal laws des hindous et qui concerne également la majorité de ceux qui ne sont pas par ailleurs musulmans, donc qui appartiennent à la Muslim Law, qui respectent la Muslim Law, et ni chrétiens qui respectent la Christian Law. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de code civil. Il y a un certain nombre de lois qui ont été reproposées par les Anglais et qui ensuite ont été inscrites dans la refonte du code civil entre 1954 et 1956, même si effectivement on est plus autour de lois personnelles, on va dire, qui prend en compte en particulier toutes les traditions religieuses qui sont derrière.
Oui, l'Inde est un pays de statut personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code civil uniforme. Ah, oui. Il y a donc des textes qui s'appliquent aux hindous, des textes qui s'appliquent aux chrétiens, et puis pour les musulmans, il y a la charia augmentée de quelques textes plus précis. Mais il y a eu des incidents très violents encore il y a une vingtaine d'années, et donc l'Inde reste un pays de statut personnel. Régulièrement, on parle d'un code civil uniforme, régulièrement, on dit ça serait bien, il faudrait. Mais pour l'instant, on est au stade des recommandations.
Alors, vous aviez commencé à nous expliquer un petit peu les mariages vertueux, non vertueux. En tout cas, quand on ouvre le journal aujourd'hui à Bombay, il y a des pages d'annonces matrimoniales. Donc, est-ce que le mariage, il est toujours arrangé ou est-ce qu'il y a aussi des mariages d'amour dans notre programme? On donne à entendre des couples hindous, musulmans. Demain, il y a une jeune documentariste, Paramita Vora, qui raconte un petit peu l'histoire de ses parents qui viennent de contrées différentes, qui ont dû lutter pour imposer leur mariage d'amour à leurs parents. Donc, où est-ce qu'on se situe, on va dire, dans cette Inde moderne qu'on explore ensemble depuis le début de la semaine? Est-ce qu'on est dans le mariage d'amour? Est-ce qu'on est dans le mariage arrangé? Comment ça se passe en ville, puisque la ville absorbe l'Inde, mais la transforme aussi?
Alors, dans le code de Manu, le mariage d'amour était un mariage honteux. Mais naturellement, les choses ont évolué et aujourd'hui, même si le mariage arrangé est encore très très fréquent, il est clair qu'il n'y a peut-être plus autant de coercition, qu'il n'y a plus autant de contraintes qu'auparavant et que les parents tiennent compte des aspirations des jeunes gens. Mais il reste que le mariage d'amour en Inde, c'est un idéal, mais dont on sait qu'il est aussi piégé, qu'il conduit donc à beaucoup de désillusions, à des divorces. Et on nous jette à la figure les taux de divorce en Occident et aussi beaucoup d'autres fléaux qui sont bien connus chez nous, pour dire nous préférons notre modèle où on ne se marie pas par amour, mais où on choisit avec donc l'aide de nos parents et puis de personnes bien intentionnées, on choisit notre conjoint d'une façon différente. Et donc ce modèle du mariage arrangé n'a pas disparu, même à Mumbai, à Bombay, il est loin d'avoir disparu. Donc je crois que c'est une des composantes de la société indienne, c'est que la famille, la tradition, l'idée qu'il faut que le mariage soit quelque chose donc qui corresponde au milieu, qui plaise à la communauté, est encore très présent. Musique.
Dans les annonces que j'évoquais dans les pages matrimoniales des grands journaux à Bombay et ailleurs, il y a une mention qui est marquée « cast no bar ». Ça veut dire « celui qui passe l'annonce ne s'occupe pas de la caste, en principe de la personne à laquelle qui va répondre ». Mais en même temps, le paradoxe, c'est ces mentions-là, c'est inscrit dans la case « brahman » qui cherche quelqu'un, marqué, et l'annonce se termine par « cast no bar ». Donc expliquez-moi le paradoxe d'un brahman qui cherche quelqu'un et qui n'a rien à faire de la caste, mais en même temps il est dans la petite case brahman.
Oui, alors c'est clair qu'il y a une certaine flexibilité matrimoniale qui est apparue récemment, mais que cette flexibilité n'est pas totale et que jamais quelqu'un donc appartenant à une basse caste, encore moins un intouchable, ne se présentera pour répondre à l'annonce matrimoniale d'un ou d'une brahmane. Donc cette flexibilité, cette tolérance, elle est quand même modérée. Elle est quand même modérée. Elle correspondrait, disons, au fait qu'en France, on pourrait admettre que quelqu'un de la bonne bourgeoisie épouse un aristocrate et vice-versa, mais on reste quand même entre soi.
Ce que vous dites dans votre article aussi, Florence Laroche-Gisreau, c'est qu'on se marie, dans la tradition indienne, pour faire une percée sociale.
Oui, alors la classe moyenne qui est extrêmement présente à Mumbai, à Bombay, effectivement, s'est structurée autour de l'idée que cette percée sociale, cette ascension sociale, cette classe l'avait réalisée et que par conséquent, l'ayant réalisée, il ne fallait surtout pas que des personnes donc peu recommandables cherchent à s'agglutiner aux familles, cherchent à s'agglutiner via des mariages d'amour peut-être, et que par conséquent donc il fallait que les mariages restent contrôlés par les familles, la terreur étant que la fille se déclasse. La fille se déclasse, et du reste là on retrouve les bases de l'hindouisme, la fille doit se marier plutôt une caste au-dessus et surtout pas une caste en dessous. Par conséquent, donc, le mariage doit être absolument approuvé par la famille, faute de quoi c'est une sorte de malédiction.
La famille, et voire même l'astrologue.
L'astrologue aussi.
Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski. Une petite réaction.
Oui. Deux petites réactions sur ce qu'on vient de dire. À propos de ces annonces matrimoniales qui font sourire souvent les Occidentaux, vous avez parlé donc de ces catégories brahmanes ou autre, si on lit bien ces annonces, et du reste, il y a eu probablement un petit changement ou un petit glissement, vous voyez de plus en plus écrit Gujarati quelque chose ou Sindhi quelque chose, où on voit bien que la question de la localité et du réseau également, une caste, c'est un élément très local, hein, c'est d'abord aussi là où on vient, hein, et de là d'où on vient, c'est le lieu d'origine, et c'est ça aussi qui donne cette identité, et vient aussi dire que l'identité n'est pas seulement celle de la caste, mais d'un groupe également qui a son appartenance locale, et d'autres marqueurs comme ça, donc je crois qu'il ne faut pas... Il faut voir qu'effectivement, chaque groupe essaye de se définir avec plusieurs critères, moins la caste peut-être aujourd'hui, avec cette idée de, certainement encore avec elle, mais moins, avec cette idée d'une nouvelle flexibilité. Par ailleurs, je voudrais revenir sur le modèle que vous proposez, en ayant du reste commencé à nous parler des lois de Manu. Le modèle hypergamique que vous développez avec une femme qui a tout intérêt pour des questions de statut à se marier avec un homme qui sera donc d'un statut un petit peu supérieur, est un modèle qui vaut surtout dans l'Inde. Voilà, une Inde sanskritisée, on va dire, qu'on retrouve du reste à Bombay, mais je crois qu'il y a un des intérêts absolument fascinants de Bombay, c'est que c'est un peu une ville du milieu, on va dire, dans le décan. Cette ville qui est bien sûr encore toute proche de cette Inde très sanskritisée du Nord, avec ce type de loi qu'on retrouve très fortement autour du mariage, typiquement, ce modèle très orthodoxe, brahmanique, qui est très différent d'une Inde du Sud. Et finalement, à Bombay, se retrouvent un petit peu les deux traditions. Dans le Sud, la question du mariage hypergamique ne se pose pas. On est dans un système matrimonial où c'est avant tout des mariages où les familles se retrouvent, d'accord, des mariages croisés entre cousins, etc. Donc c'est une des choses qui est si intéressante, c'est de voir... Je crois, par exemple, dans une ville comme Bombay, à travers la diversité de ses communautés, un modèle qui a finalement énormément de versions.
Et qui dit mariage, dit chanson de Bollywood. Un homme, une femme, shabadabada.
Dil par kiska zor hai, dil ke aage har koi hara. दिल पर किसका जोर है दिल के आगे हर कोई हारा
हाय ओ मेरे यारा
Alors Côte de Manou plus ou moins on va dire transformé par la ville. Et ce qui m'intéresse aussi dans cette grande semaine, c'est de voir comment les castes disparaissent ou se reforment en classe sociale, finalement, comment la ville transforme tout ça, avale tout ça pour mieux digérer ça. Donc on passe des annonces dans la presse indienne pour se marier. Après se pose la question de la dot, que je croyais illégale depuis 1961, Florence Larogistro.
Oui, la dot est illégale depuis une loi de 1961, The Dowry Prohibition Act. Néanmoins, cette loi n'est pas respectée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a des moyens de la tourner. Du reste, c'est de dire que, et ça, la loi ne l'interdisait pas, de dire que ce sont des cadeaux que les parents font à leurs filles, qui n'ont pas du tout été sollicités par la famille du mari, qui vont rester la propriété de la fille. Et que par conséquent...
Donc, on peut rentrer dans le détail de ces cadeaux parce que ça peut prendre la forme d'un scooter, d'un appareil ménager.
Hein. Absolument, absolument. Et là, déjà, un scooter, on a quelques doutes que ce soit un cadeau pour la femme. Mais il y a des façons de tourner la loi qui font que, en fait, elle est très difficile à faire respecter. Tout simplement parce que la loi interdit donc de solliciter une dot de la part donc, de la famille du futur marié. Mais elle n'interdit pas aux parents de la fille de lui remettre donc des biens qui vont l'aider à démarrer dans son ménage. Et ça, par conséquent, donc, c'est incontrôlable, car on ne saura jamais si les cadeaux donc, vont passer clandestinement vers le mari et sa famille ou vont rester, comme c'était l'objectif affiché, la propriété de la femme. Et donc, je crois que c'est là toute l'ambiguïté.
Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski, vous qui avez travaillé sur les populations migrantes à Bombay, est-ce qu'on peut envisager qu'un Gujarati, donc qui vient du nord de Bombay, épouse une femme du Tamil Nadu qu'il aurait rencontrée à Bombay? Est-ce que ça sera envisageable ça, à part dans un film de Bollywood?
Oui, c'est envisageable aujourd'hui, puisque vous avez toute une nouvelle classe sociale qui passe outre ce genre de considération traditionnelle. Il y a quand même une forme d'enregistrement du mariage qui existe hein, et qui concerne typiquement un couple moderne qui déciderait par amour de se marier. On peut parfaitement aller à l'office des Registered Marriage et juste enregistrer son mariage comme on le ferait ici à la mairie finalement et ne pas passer par un mariage religieux. Alors certes, pour le reste de la communauté et même pour le Hindu Code Bill, ce qui fait le mariage, c'est très proprement le mariage religieux et avant tout, par exemple, puisqu'on est chez les hindous, c'est Sat Padi, c'est cette pas autour du feu. Enfin, c'est vraiment le rituel religieux qui est si important. Mais pour ce couple-là, le fait qu'il ait enregistré son mariage suffit. Donc cela existe, cela se fait continuellement. Là aussi, sur Internet, on trouve des infinités de discussions entre des couples qui souhaiteraient se marier malgré peut-être l'avis des parents ou de la communauté. Donc c'est tout à fait envisageable, qui plus est dans une ville comme Bombay. Cela dit, il est vrai que ce n'est pas encore commun pour plusieurs raisons, pour une force d'une tradition et puis peut-être une relative... Le poids de cette tradition et puis la relative raison d'un type de mariage. Vous parlez des films de Bollywood, mais les films de Bollywood se finissent bien, généralement, et tout le monde se marie et la famille est très contente du type de mariage.
Et c'est pour ça que les gens vont les voir.
Monica!
Monica!
Alors, je citais les journaux dans lesquels donc, les familles passent des annonces. Si on tourne la page des journaux, il y a aussi dans la rubrique faits divers, là, des choses moins réjouissantes qui sont ce qu'on appelle en France les accidents de sari, on pourrait dire, les dowry deaths. qui, alors là aussi les chiffres sont un petit peu à prendre avec des pincettes. Sur 100 000 femmes mariées, 5 000 seraient victimes de ces accidents de sari. Vous allez nous dire ce que ça veut dire, un accident de sari, Florence Laroche-Gisreau. En fait, les chiffres seraient multipliés par 5. Donc 25 000 seraient sujettes à quoi ? À la belle-mère qui se rebelle, en fait.
Écoutez, la première fois que je suis allée donc travailler sur la dot, en feuilletant un journal indien dans l'avion, j'ai lu dans un entrefilet que la plupart des femmes qui étaient emprisonnées en Inde l'étaient pour le meurtre de leur belle-fille. Alors, immédiatement, évidemment, ça m'a intéressée, voire passionnée, et j'ai compris que c'était ces fameux meurtres de sari ou dowry murders. Et j'ai compris donc qu'il s'agissait de femmes donc mariées qui n'avaient pas apporté la dot qui avait été convenue et donc qui sont victimes de quelque accident domestique mystérieux ou alors on dit qu'elles se sont suicidées, mais plus souvent on dit que leur sari a pris feu.
Près de la cuisinière.
Près de la cuisinière.
Et puis le sari,
s'est enflammé.
Il était enveloppé d'essence,
voilà,
en plus.
Ça s'est enflammé. Et donc, on découvre, lorsqu'il y a une enquête policière, ce qui n'est pas toujours le cas, on découvre que la dot convenue n'a pas été versée, c'est-à-dire qu'il devait y avoir un scooter plus une télévision, que la télévision n'est jamais arrivée, ou qu'il devait y avoir une machine à laver qui n'est jamais arrivée non plus. Et on voit donc que c'est un meurtre justifié par cette absence de dot. Donc c'est quelque chose de tout à fait épouvantable.
Mais il y a la version, on pourrait dire, plus tragique, c'est que le scooter était là, la télévision était là, et que le mari ou la belle-mère dit en plus qu'elle voudrait une climatisation et un nouveau sari.
Cela peut arriver également. Ça peut arriver également qu'il y ait eu des promesses plus ou moins évasives qui aient été faites d'embellir sans cesse le logement et que ces promesses n'étant pas tenues, ceci débouche sur les accidents dont vous parlez.
On parle là du modèle de la famille à l'indienne ou avec une connotation hindoue très particulière, la joint family, où la femme vient vivre chez le fils. Donc, et dans cette famille, il y a les parents, il y a le mari, la femme, les cousins. Donc c'est une famille élargie. C'est pas la famille telle qu'on la connaît à l'occidental.
Non, bien sûr. La joint family était le cadre naturel de toutes les familles indiennes il y a encore 30 ou 40 ans. Alors c'est effectivement une collectivité où les gens vivent ensemble, mettent en commun leurs ressources, mais reçoivent, si je puis dire, de l'argent de poche, pas du tout conformément au travail qu'ils ont fourni, mais conformément à leur âge, à leurs besoins, réels ou supposés. Donc c'est une communauté dans laquelle il n'y a absolument aucune récompense du travail, des efforts individuels qui sont faits, et où évidemment les femmes ne sont pas toujours gagnantes, puisqu'elles ne reçoivent pas grand-chose, alors qu'elles travaillent très très durement. Alors c'est une structure qui est en train de décliner. Sur le plan juridique, du reste, il y avait un problème successoral qui vient d'être résolu. Les inégalités dont souffraient les femmes ont disparu, mais sur le papier, reste à savoir si la loi sera respectée.
Marie-Caroline Seglio.
Juste faire un petit point sur la joint family qui finalement, en termes numériques, a toujours été inférieure au modèle de la famille nucléaire. Et ça, c'est une espèce de cliché sur l'Inde que la famille indienne est une Hindu joint family. À nouveau, Bollywood, quelque part, qui nous apporte ce modèle. Mais et on l'a dans beaucoup de récits, romans, etc., dans la littérature. Il est très important, mais il est inférieur numériquement au modèle de la famille nucléaire. Deuxième petit détail qui me semble important aussi, c'est que cette joint Hindu family a énormément de modèles possibles. Et celles qu'on retrouve en particulier dans une ville comme Bombay, où les migrations ont formé finalement la vie à Bombay, il est très rare de trouver la famille étendue au sens strict, ou à partir d'un agnat commun, enfin de l'ancêtre, finalement les fils sont venus habiter avec leur épouse respective. On trouve difficilement la famille entière telle qu'on peut l'imaginer plus facilement peut-être dans des zones semi-rurales, par exemple. En revanche, on trouve très souvent le fils aîné, par exemple, qui est resté vivre avec, qui a pris en charge, par exemple, ses parents, et qui, sur ce modèle, mettons, de trois générations, on peut trouver ça plus facilement. Mais là, le fils aîné qui a ensuite, à côté de lui, ses frères, avec tout ce modèle hiérarchique qui va se décliner autour des rôles familiaux, est moins vu, dans une ville en particulier comme Bombay, où le modèle nucléaire, évidemment, a tendance en plus à se développer fortement.
Vous écoutez France Culture et jusqu'à midi et demi, c'est le Bombay Mix. avec ce matin autour de ce micro Florence Large-Dissereau, Marie-Caroline Saglio-Yatsimersky et Emmanuel Lelio. On parlait là pour l'instant au début de ce débat sur la femme, la famille. Au niveau national, si j'élargis un tout petit peu la vision, il y a une représentation, on va dire, de la femme au niveau politique en ce moment qui est importante. Alors on va voir si ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Avant-hier, dans l'Inde, Indira Gandhi était Premier ministre, ça tout le monde le sait. Aujourd'hui, Sonia Gandhi, donc il se fait beaucoup de Gandhi, hein, Sonia Gandhi qui a épousé le deuxième fils de Indira Gandhi, Rajiv. Donc Sonia Gandhi dirige le parti du Congrès. La présidente indienne depuis 2007, c'est une femme. Et la toute nouvelle speakeuse, si on peut utiliser ce néologisme, speakeuse du Parlement, c'est aussi une femme, originaire du Bihar, une intouchable. Donc il y a des femmes qui sont arrivées à la tête du pouvoir politique. Est-ce que c'est un exemple à suivre pour d'autres femmes à Bombay, que ce soit dans les slums ou dans d'autres régions plus difficiles, de s'émanciper et d'aller de l'avant? Marie-Caroline Saglio-Yatsimitsky.
Oui, vous avez parlé de ces grandes figures, finalement, qu'on connaît. Hein, celle qui a fait couler beaucoup d'encre très récemment avec les élections indiennes, c'est Mayawati, dont on a un moment pensé qu'elle pourrait être Premier ministre, et qui, après un quatrième mandat comme chief minister, donc ministre de l'Uttar Pradesh, gouvernait seule cette fois-ci, sans accord ou sans alliance avec d'autres partis. Et donc une femme et qui plus est intouchable, en l'occurrence. Bien sûr, il y a ce modèle des grandes figures. Il y a derrière une volonté politique affichée avec des lois de faire rentrer les femmes en politique, puisque c'est le domaine dont on parle, avec cette nécessité au niveau local d'élire un tiers des femmes au niveau de toute la structure des nouveaux panchayats, telle qu'elle se vit aujourd'hui, c'est-à-dire la structure d'administration locale, et au niveau politique également, au niveau plus important des Rajya Sabha et autres chambres, au niveau national, une proportion de femmes est exigée. L'Inde est multiple et de même que on ne peut absolument pas comparer la place et le statut, on va dire, et le rôle des femmes en milieu urbain et en milieu rural. Probablement, il est difficile de parler de ces quelques femmes et de les comparer avec au reste des femmes. À nouveau, je crois que la variable nord-sud jouerait. Enfin, il y a tellement de variables à faire jouer pour essayer de comprendre cette diversité que je ne sais pas si on peut répondre de manière générale. Sont-elles un modèle? Elles sont un modèle bien éloigné pour la mère au foyer dans une ruralité du Bihar.
C'est alors certain. Voilà, vous citiez le Bihar. Le taux d'alphabétisation des femmes dans le Bihar est de 25%, qu'on peut opposer à celui du Kerala qui frôle les 90%, ce qui fait une moyenne pour les femmes d'un taux d'alphabétisation de 54% à peu près, donc comparé aux hommes qui, eux, sont alphabétisés à 75% pour l'ensemble de l'Inde. Donc on voit bien les disparités entre, encore une fois, l'Inde du Nord et l'Inde du Sud, le Kerala étant traditionnellement communiste, chrétien et gros pourvoyeur de main-d'œuvre immigrée qui partent soit vers Bombay, soit vers les pays du Golfe notamment. On va parler maintenant des tabous de la société indienne. On a parlé jusqu'à présent dans ce débat des femmes, du mariage, du code de Manu. Parlons de l'homosexualité, donc on en parle dans le documentaire qui suit. Et l'homosexualité était punie jusqu'à très récemment par l'article 377 du code pénal, un article qui date de 1860 et qui criminalisait l'homosexualité en définissant ses relations comme contre nature. 10 années de prison, c'était la menace qui planait sur les homosexuels en Inde, jusqu'à donc l'arrêt de la Haute Cour de justice qui, au début de ce mois, rejette cet article. Il y a eu une première Gay Pride à Bombay en 2008. Quelques centaines de personnes ont fait, on va dire, le trajet traditionnellement emprunté par les fidèles pour la fête de Ganesh, c'est-à-dire les grandes avenues qui donnent sur Chaupati. Alors là, c'était pas pour aller immerger la statue du dieu Ganesh, mais peut-être le drapeau multicolore. L'homosexualité, donc, un tabou. Florence Laroche-Dissereau.
Oui, l'homosexualité en Inde, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, car j'ai enseigné dans différentes facultés indiennes et j'expliquais donc comment est-ce que nous avions en Occident des partenariats de type Pax. Et donc, j'expliquais que c'était la communauté homosexuelle qui les avait demandés et qui en avait, dans un premier temps, du reste, pas mal profité. J'ai remarqué que mes étudiants étaient d'abord très mal à l'aise avec ce sujet et deuxièmement très surpris qu'on puisse donc en Occident se préoccuper, organiser des partenariats homosexuels. Et ils m'ont dit, dans un village indien, ces gens-là seraient mis à mort. Incontestablement, dans tous les cas, nord, sud, partout. Je les ai retrouvés 2 ou 3 ans plus tard et je suis revenu sur le sujet. Et j'ai constaté une évolution. J'ai constaté que ça se passait en 2001. J'ai constaté ensuite en 2003-2004 que ces mêmes jeunes gens avaient probablement réfléchi, qu'ils avaient peut-être s'étaient informés et que leur vision était quand même beaucoup moins répressive. J'ajoute du reste que la loi de 1860 dont vous parlez, c'est une loi britannique. Hein. C'est une loi que les Anglais ont transporté en Inde. Et les Anglais n'ont abrogé ce genre de texte que très récemment. Par conséquent, donc, on ne peut pas reprocher à l'Inde de ne pas avoir fait ce que nous avons tant tardé à faire.
Autre tabou, Emmanuel Elio, le sida. Vous avez travaillé particulièrement sur cette question. Alors, tout de suite, les chiffres que vous m'avez communiqués, de quand datent-ils et donnez-nous un aperçu de la propagation du virus en Inde et notamment à Bombay.
Alors, peut-être d'abord faire un tout petit historique. Les premiers cas ont été identifiés en 1986, donc dans deux villes, enfin dans deux régions, on va dire plutôt, Madras, Chennai et Bombay-Mumbai. Donc, à partir de là, il y a eu la mise en place, en fait, d'un système de surveillance de l'épidémie qui était extrêmement imparfait, puisque, grosso modo, au début des années 2000, il y avait à peu près 300 sites sur toute l'Inde, ce qui est fort peu. Donc, à partir de 2000, il y a eu une volonté, suite à des financements, en particulier des financements venant de l'étranger, l'ONU SIDA et aussi la Banque mondiale, de développer, effectivement, des systèmes de surveillance sur les normes qui sont les normes de l'OMS, à savoir effectivement le répertorier à partir de groupes dits à risque. Et alors là, on rentre dans un gros problème, des grosses difficultés quand on s'intéresse effectivement à ces groupes à risque, c'est que selon en fait les régions, les dépistages ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'on ne va pas tester les mêmes populations. Alors à la fois ça dans l'espace indien, donc à l'échelle de toute l'Inde, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire que par exemple à Bombay ou à Madras, on a pu très tôt en fait commencer à dépister auprès de groupes des prostituées. Des populations aujourd'hui où certains sites sont en milieu rural, ça fait 2-3 ans simplement que l'on est sur des dépistages. Donc je voulais juste présenter un petit peu, dresser ce portrait très rapide pour montrer toute la difficulté de mesurer l'épidémie. Voilà. Donc les chiffres ont été variables, c'est-à-dire que jusque dans les années 2000, on était autour de 4-5 millions de cas porteurs du VIH, donc ce restait des estimations. Et il y a eu un travail en fait entre 2003 et 2006 pour essayer de réactualiser en fait ces données en fonction de nouveaux modèles épidémiologiques, puisqu'on reste sur des approximations et des évaluations. Mais il faut bien replacer aussi ça. Donc les années 2003-2006, ce sont aussi des années où il y a eu une augmentation en fait, du système de dépistage. Donc il y a tous ces paramètres qui entrent en considération et qui expliquent aussi le réajustement du nombre de cas. Alors, un dernier point, c'est aussi tout le discours qui a pu être sur cette épidémie. Jusque, on va dire, dans les années 2000, on était dans un déni absolu, c'est-à-dire que l'épidémie touchait simplement quelques groupes de prostituées. J'ai souvenir d'avoir travaillé fin des années 90 à Hyderabad, donc la grande ville du Deccan, du centre du Deccan, et faire des enquêtes auprès des populations des quartiers de prostitution de cette ville. Et les femmes disaient, mais non, l'épidémie de sida, bon, elles avaient entendu parler de ce nom-là, mais c'était l'épidémie de Bombay,
où c'était l'épidémie de Madras, mais jamais l'épidémie viendrait à Hyderabad. Alors, au niveau gouvernemental, il y avait effectivement certaines actions qui étaient mises en place. On envoyait des tonnes de documents avec, en essayant de montrer que l'épidémie ne se transmettait pas par le moustique, donc quelles étaient les règles effectivement de transmission. Mais, en fait, ces papiers n'étaient pas distribués. Il ne faut pas oublier ce que vous avez dit il y a quelques minutes, c'est que aussi une grande partie de la population indienne est analphabète. Donc, ça posait de très gros problèmes. Alors, il y avait en parallèle une espèce de nébuleuse d'ONG qui avait été financée par des fonds internationaux. Donc ça a été extrêmement attractif, et en particulier dans la région de Bombay et dans la région de Madras.
Alors les chiffres, vous les avez évoqués pour 2004, 5 ou 6 millions. Ouais. On est passé en 2006 à 2 ou 3 millions. C'est-à-dire que les chiffres ont été divisés par 2.
Ouais.
Parce que les études sont devenues plus fines.
Alors les études sont devenues plus fines, et puis ils ont pris en compte aussi toutes les nouveautés, les nouvelles implantations du système. Et puis après, c'est des variables d'ajustement qui sont à partir de modèles épidémiologiques.
Vous avez travaillé sur Bombay, on est à Bombay toute la semaine, donc dans ce Bombay Mix. Notamment, vous avez travaillé au moment des ou post émeute 92-93. Expliquez-moi le facteur propagation du virus à partir de cet élément ou de cet événement traumatique pour la ville.
Alors, l'événement, qu'un été des événements très traumatiques pour cette ville, qui est les émeutes en fait à la suite de la destruction de la mosquée d'Ayodhya, donc en Inde du Nord, et il y a eu des émeutes très importantes en fait dans les grandes villes indiennes à la suite de cette destruction, en particulier dans les villes où il y avait une forte proportion de musulmans, mais pas seulement, mais ces villes ont quand même été fortement touchées.
86-1994, je vous cite Emmanuel Eliaou, vous citez 7196 cas dans le Grand Bombay.
Alors, il faut préciser, c'est-à-dire que c'est un échantillon qui avait été fait sur... Il y avait 20 centres de dépistage à l'époque, donc c'était un échantillon qui avait été fait sur 14. 14 centres, effectivement, c'était plus que donc un dépistage dans chaque centre. On avait recueilli en fait toutes les informations qui étaient dans chaque centre. Et c'était plus que le gouvernement ne déclarait. Voilà, sur simplement, on va dire, 14 sur les 20 qui normalement renvoyaient l'information soit au niveau de l'État du Maharashtra, soit ensuite au niveau du niveau national, donc à Delhi. Donc c'est tout ça pour ajouter et répéter que le problème, ces données, elles sont, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. Et ce que je viens d'aborder, c'est le fait qu'il y a un problème aussi de report de l'information du niveau, on va dire, de l'échelle locale, Bombay, ou les centres de dépistage de Bombay, et le niveau, on va dire, régional, enfin, au niveau étatique et national. Alors, pour revenir à votre question...
92-93,
donc les émeutes. On peut dire que les émeutes ont été un accélérateur, en fait, dans la diffusion de l'épidémie. C'est-à-dire que l'épidémie était très concentrée essentiellement dans les vieux quartiers, le vieux noyau Bombay, qui est issu en fait de l'industrie textile, donc les quartiers de Kamathipura, Baikula.
Kamathipura, un mot quand même pour nos auditeurs, c'est le quartier chaud.
C'est celui qui est connu, voilà. Celui qui est connu et celui qui est où vous avez une très forte concentration, effectivement.
De maisons closes,
etc.
Alors, de prostituées qui viennent de toute l'Inde, voire du Népal.
Oui, avec des filières migratoires, effectivement, qui se sont développées. C'est vrai que c'est une des plus grosses concentrations. Au début des années 2000, on estimait à peu près à 100 000 prostituées ou femmes travaillant, effectivement, dans ce quartier. Alors, avec toutes les approximations que ce chiffre... peut avoir. Quoi.
Donc il y avait Kamathipura et d'autres, donc, moins connus en banlieue notamment.
Alors, en banlieue, mais je dirais que grosso modo, l'épidémie était concentrée dans ces vieux quartiers, dans ces quartiers anciens. Pas simplement dans le quartier de prostitution, puisque le quartier voisin, qui n'est absolument pas un quartier de prostitution, qui s'appelle Baïkoula, était aussi un des plus touchés. Donc, une épidémie très concentrée jusque dans les années 90. Et ça, je veux dire, c'est pas simplement une analyse, en fait, des données épidémiologiques liées au sida, mais aussi, si on regarde, en fait, les courbes de mortalité, on se rend compte qu'on a un moment donné, on a un pic. Et si on fait une analyse un petit peu précise par quartier, on se rend compte qu'il y a vraiment une transformation à la fois dans les taux de mortalité, en particulier les taux de mortalité liés à la tuberculose, ou à des hépatites, donc très corrélés en fait à l'épidémie de sida. Et d'autre part qu'après, effectivement, 92, mais plutôt 93-94, et on peut prolonger les chiffres, je pense, au-delà, on est effectivement dans une autre logique qui est toujours un fort taux de mortalité dans ces quartiers centraux, et par contre, des taux de mortalité qui sont en très forte progression, en très forte croissance, dans des quartiers qui sont plus périphériques. Alors, l'une des hypothèses que j'ai essayé de développer depuis pas mal d'années dans les papiers que j'ai pu produire, c'était effectivement le rôle de ces conflits intercommunautaires qui avaient eu un rôle très important à la fois... Si on vient sur le quartier de Kamartipura, sur, pendant quelques temps, le quartier était complètement verrouillé, fermé, à la fois par la police, et il y avait une très forte pression de la part des maquereaux et des mères maquerelles qui insistaient effectivement pour que les femmes puissent faire de l'argent. Voilà. Donc il y a eu à la fois cette pression qui a conduit une certaine partie des prostituées à quitter le quartier pour essayer de travailler ailleurs. Et puis il y a aussi tout un discours qui s'inscrit dans... Donc ces quartiers ont été en fait des quartiers qui ont été un peu des enjeux à la fois fonciers, des enjeux qui étaient aussi des enjeux, on va dire, politiques. Le noyau dur, en fait, du parti extrémiste qui est la Shiv Sena avait des implantations très fortes, en fait, dans ce quartier-là. Donc c'est non seulement, je dirais, une dynamique de épidémiologique, mais aussi, il y a aussi tout un contexte qui est un contexte, effectivement, de politique, foncier, économique, qui tout ça modèle un petit peu la dynamique de l'épidémie à un moment donné. Et donc, non seulement les populations ont pu migrer, enfin, ont pu se déplacer hors de ces quartiers centraux, en particulier les prostituées, mais aussi, à la suite de ces événements, il y a une partie, en fait, des populations qui résidaient dans ces quartiers qui se sont dit, bon, on va aller ailleurs, parce qu'on ne veut plus d'émeutes, on a peur, il y avait toute une angoisse qui s'était développée, et une frange de la population, par exemple, musulmane, voire hindoue, sont allées dans les périphéries pour s'installer dans des quartiers quasi isoculturels.
Il y a aussi que dans une autre communauté, qui, un peu à la marge des hommes et des femmes, qui sont les Hijra, eux ont un véritable statut en Inde, puisque on me disait à Bombay qu'ils pouvaient indiquer même leur sexe sous la forme de E, comme eunuque sur leur passeport. Alors, Hijra, c'est donc des hommes qui ont un rôle social, enfin qui sont vêtus de sari, qui vivent de mendicité et de prostitution, notamment à Bombay, qui ont même leur gourou, un temple dédié à leur communauté. Et vous vouliez dire quoi sur ces gens?
Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que moi, je les mettrais dans la catégorie des transsexuels et non pas des homosexuels. Ce sont des hommes qui ont vocation à devenir des femmes. Ils n'ont pas été opérés parce que là-bas, les opérations n'ont pas cours ou elles coûtent trop cher.
Certains sont opérés.
Je ne savais pas.
Emmanuel Lio.
Il y a juste une petite distinction entre les opérés et les non-opérés, mais bon, c'est un peu gêné de faire des catégories de ce type. C'est entre Hijra et Zenana. En fait, il y a ce terme de Zenana qui est utilisé en Inde entre les gens qui sont castrés et ceux qui ne sont pas castrés.
Oui, alors je me suis demandé, ce sont donc des transsexuels à vocation féminine. Ils sont acceptés, ils sont organisés, ils sont connus. Et je me suis demandé donc où étaient les transsexuels femme à vocation masculine. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être normal que ce ne soit pas possible à accepter que cette catégorie ne puisse pas exister, car une femme qui veut devenir un homme, effectivement, ça paraît encore plus étrange et ça paraît peut-être surtout choquant. Et par conséquent, donc, on n'a jamais entendu parler de ce type de situation.
Marie-Caroline Saglio Yatsemirsky.
On parle d'une communauté, les Hijra. Vous avez parlé de leur statut et on vient d'employer le terme accepté. En particulier à Bombay, c'est vraiment l'histoire d'une communauté qui a eu précisément un statut social, qui était rattaché ou au temple, ou qui avait son quartier, qui avait ses fonctions, et qui s'est vue dans une ville comme Bombay, justement, où une nouvelle modernité, quelque part, apporte d'autres valeurs, absolument repoussée, dépossédée. C'est une population qui souffre terriblement d'être, pour ceux qui suivent encore les principes de cette communauté, qui souffrent terriblement d'exclusion. Tous ceux qui ont été dans les trains locaux de Bombay ont senti venir ces hommes-femmes, avec tapant dans leurs mains et exigeant qu'on leur lance une pièce. Le mépris aujourd'hui pour cette population et la difficulté qu'elle a socialement et économiquement est terrible. Alors que c'était effectivement, on n'en parlera probablement pas ici, mais une société qui a une... C'est une population qui a une communauté, pardon, qui a une fonction sociale dans une société plus traditionnelle.
Notamment dans les mariages.
Notamment dans les mariages.
On les convoque pour jeter un sort, et si on ne leur donne pas une somme d'argent, soi-disant, ils vont jeter un mauvais sort pour le mariage et pour la descendance promise.
Voilà, de même que on fait des dessins sur l'enfant pour enlever le mauvais œil, etc. Enfin, on est encore avec ces images-là et ces statues-là dans des rôles traditionnels, interdépendants, autour d'une hiérarchie où effectivement la question de l'augure, la question de la pureté, etc. vient se poser. Autant de modèles qui ont tendance à disparaître. Et je dirais que là, la question de la métropole, de la modernité est vraiment très importante. Donc, moi, j'avais envie également, vous avez posé une question et d'en reposer une à mon collègue ici. Oui, la question des Hijra typiquement et de cette épidémie, comment elle peut se poser et le tabou qui entoure aujourd'hui ces communautés et qui a été remodelé quelque part avec d'autres un autre système de valeurs, voilà, fait que des communautés finalement changent de statut et se retrouvent plus difficilement acceptées.
Alors Emmanuel Elio, les Hijra victimes du sida, propagateurs aussi
Le problème c'est toujours le problème des catégories, c'est-à-dire que ma collègue a posé le problème, où est-ce qu'on met cette catégorie de population ? Et en particulier dans un travail qui est un travail d'épidémiologiste, où là, il faut mettre des catégories, il faut placer des groupes à risque. Alors, une partie des populations Hijra ou Zenana ont pu être classifiées dans des catégories qui sont arrivées assez tardivement, en fait, dans le dépistage indien, c'est-à-dire les hommes qui ont des relations avec des hommes. Et donc, ces populations peuvent être classées ou peuvent être classées aussi dans des catégories de type prostituées. Voilà. Donc, le problème, c'est de bien mesurer quels sont les rôles. Et ça, on en revient à ce que vous disiez, à savoir, effectivement, la transformation, en fait, d'un rôle social qui était un rôle social, effectivement, de danseur, chanteur, légitime. Et qui est devenu, bon, clairement, en fait, alors à la fois dans une pauvreté, une précarité très forte, prostitution, mais aussi proximité très claire avec la mafia.
On parlait du rôle social des Hijra. Il y a aussi la tradition des jeunes filles dans l'Inde du Sud dédiées au temple, les Devadasi, qui étaient des jeunes filles donc promises aux brahmanes, qui devenaient des prostituées quasiment officielles, qui participaient non seulement au puja, au rituel hindou, mais qui faisaient plus que ça, puisqu'elles faisaient aussi commerce de leur corps. Donc la prostitution est aussi connotée de manière religieuse en Inde. Il ne faut pas pour une certaine part de la population, et notamment dans l'Inde du Sud et dans l'état du Karnataka, si je ne m'abuse. Marie-Caroline Saglio.
Oui, tout à fait. Vous faites un très bon parallèle entre des populations qui, finalement, sont des populations qui ont à nouveau un rôle et un statut extrêmement défini dans une Inde traditionnelle, c'est-à-dire avant tout religieuse, hein, et qui, avec les transformations de la modernité, se trouve quelque part dépossédé de cette légitimité et où effectivement ces femmes offertes au temple avec sans la moindre connotation péjorative deviennent quelque part des prostituées dans un autre système. Mmh. Et finalement leur réinsertion sociale ou leur nouveau statut social est à ce moment-là extrêmement difficile et se pose avec des termes dramatiques. Et là on rentre dans des catégories qui ne sont plus du tout celles d'une Inde traditionnelle et religieuse, mais celles de la question de l'exclusion sociale, tout simplement. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.
Bombay, c'est la ville de l'argent, l'argent propre, on a parlé dans l'économie, l'argent sale aussi, les mafias sont là à Bombay, multiples, musulmanes, hindous, des fois elles travaillent ensemble, malgré leurs différences. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle Ed Sutra, Emmanuel Elio, qui est produit de rencontres d'écrivains, notamment Sonia Falero, que nous avons rencontrée, qui a, elle, étudié comment les policiers qui sont dans Kamathipura sont des facteurs eux-mêmes de propagation du sida, plus que ils sont sous-payés, les policiers de base, et on pourrait dire non seulement mettent à l'amende les prostituées, mais se servent aussi de leur corps, sans protection aucune, et donc après rentrent dans leur famille, en lointaine banlieue, voire en province, et contribuent justement à la propagation du virus. Donc elle s'est immergée de longs mois dans Kamathipura, elle a travaillé aussi sur des bars à hôtesse, et elle a vu le rôle néfaste de la police, notamment à Bombay. Est-ce que vous avez eu maille à partir dans vos études sur le terrain, justement
avec... J'ai pas eu maille à partir avec les policiers, mais de Bombay. Mais effectivement, c'est des choses qui étaient déjà présentes et qui, effectivement, la police est très proche, en fait, des milieux proxénètes et mafieux. Mais je voudrais revenir un peu sur la réflexion de ma collègue sur le rôle, en fait, et sur les transformations du modèle social. Là, on parlait des Devadasis. Mais les temples et les petites villes et les villages, en fait, où ces cérémonies pouvaient avoir lieu, sont devenus aujourd'hui, enfin, étaient devenus plus ou moins, en fait, des marchés pour prostituées pour les proxénètes de Bombay. Voilà. Qui venaient faire récupérer. Donc, on voit bien, effectivement, là, les transformations d'un modèle social qui est effectivement avec un ancrage religieux très important.
Alors, on est en Inde, on est, on va employer un cliché, au pays du Kama Sutra, on est aussi au pays des temples de Khajuraho, qui sont donc des temples jaïnes avec des figurines érotiques. Je convoque, là, pour terminer l'émission, un des rares psychanalystes indiens à être médiatisé en Occident, qui s'appelle le Soudi Kakar, qui s'intéressait à comment les classes moyennes instruites et les élites avaient réagi à l'épidémie du sida. Donc je le cite et vous allez réagir. « Les comportements sexuels ont beaucoup moins changé que les médias le prétendent. La sexualité n'apparaît toujours pas comme une libération du corps et de l'esprit. Elle reste entachée d'un sentiment de honte et de culpabilité. Les gens pensent que le conformisme sexuel est nécessaire à la stabilité familiale. » Alors, que pensez-vous de cette assertion du dit Sudhir Kakar, qui a travaillé sur l'inconscient donc, des Indiens?
Florence Larrochisreau. Je pense qu'il résume très bien le sentiment que l'on a en observant les Indiens, de l'idée qu'ils se font de la sexualité, de son rôle dans le couple, de son rôle dans l'éducation, et ce malaise, il existe. Alors quand on voit les temples de Khajuraho, effectivement, on se dit c'est assez curieux, comment est-ce que on peut donner comme modèle donc aux gens qui visitent donc des statues érotiques, c'est le moins qu'on puisse dire, et comment est-ce que on voit une population qui est tellement mal à l'aise à l'égard de la sexualité. Alors ce que je pense, mais c'est une opinion qui n'engage que moi, c'est que l'Inde est en train de vivre une transformation qui ressemble au fond à celle qu'on a connue au 19e siècle, c'est-à-dire qu'il y a un très fort puritanisme, il y a une bourgeoisie qui est en train de bourgeonner, de fleurir, de se développer, 30 millions de personnes par an rejoignent cette bourgeoisie. Cette bourgeoisie est puritaine, par conséquent son modèle imprègne la culture ambiante. Mais je pense personnellement que ça ne durera pas et que dans deux ou trois générations, il y aura un phénomène de libération comme il a existé chez nous.
Deux ou trois générations ou avant, Emmanuel Elio?
Puritanisme, à mon avis, de façade. Voilà, de façade. C'est ce que j'ai pu, effectivement, avec après des discussions, en travaillant avec des gens qui sont responsables d'ONG ou des choses comme ça, c'est un peu ce qui en ressortait. C'est effectivement un puritanisme, il y a la société, il y a un modèle, il y a une vitrine, je dirais. Et voilà, derrière, ce sont des individus comme les autres. Il y a, en fait, effectivement, des histoires d'amour. Il y a des histoires d'amour qui se lient et qui sont parfois tragiques. Et là, les films ne sont pas simplement, en fait, du fantasme ou simplement quelque chose d'idéalisé. Il y a des histoires d'amour qui peuvent se tisser, mais, encore une fois, il y a le poids de la famille, le poids de la structure familiale qui fait, et le modèle qui est un modèle où c'est la famille qui règle et qui organise encore en grande partie les choses.
Marie-Caroline Saglio-Yatsimitsky.
Oui, je suis assez d'accord avec
Emmanuel Elio.
D'être dit, oui. Ce poids, avant tout de la famille, éventuellement même de la communauté, pour parler d'un modèle plus élargi, donc d'abord de la famille, puis ensuite des règles de caste, du Beradari, donc du groupe de fraternité qui est resté au village, enfin tout ce qui vient effectivement normer peut-être une conduite sociale et en particulier sexuelle. Je pense aussi que c'est toujours très difficile, on l'a très bien montré, je crois, là maintenant, de généraliser. On parle de l'Inde, en général, c'est bien difficile. On la voit évoluer à toute vitesse, en particulier en milieu urbain. Personnellement, pour avoir mis la première fois les pieds en Inde en 91, c'est vrai que donc en 18 ans, cette Inde a changé à une vitesse incroyable dans le milieu des jeunes, la sortie d'un... des collèges de Pune, une ville en l'occurrence assez traditionnelle.
Pune, proche banlieue, maintenant presque banlieue.
200 km au sud de Bombay.
Ouais. Les villes se touchent presque.
Les villes se touchent presque. À l'époque, elles ne se touchaient pas. Bombay était encore le bastion de la culture traditionnelle, marathe. C'est encore une population relativement traditionnelle qu'on trouvait. Et aujourd'hui, tous ces jeunes sont en vélomoteur, en jean et sortent ensemble. Enfin, ce qui est une chose impensable il y a 15 ans, finalement. Donc, c'est vrai qu'on voit, certains milieux évoluent extrêmement rapidement. Vous parliez de cette nouvelle bourgeoisie urbaine, et ça, je suis tout à fait d'accord. Et celle-là évolue à toute vitesse. À nouveau, il est bien difficile de parler, je trouve, d'une révolution au niveau de l'Inde. Et lorsque vous avez cité Sudhir Kakkar, je trouve que lui-même fait continuellement part de cette multiplicité, puisque dans un des livres qu'il écrit sur cet inconscient dont vous parlez, Intimate Relations, finalement, il étudie cette question du puritanisme et d'un relatif conservatisme, qui est entre autres celui d'une structure familiale et sociale, dans plusieurs couches sociales, et il montre à quel point elle est différente, finalement, chez des classes plus populaires, on va dire, et différente chez une classe qui a plus accès à un modèle international.
Merci à Florence Laroche-Lissereau, Caroline Saglio Yatsimirski et Emmanuel Elio. Avec nous dans un instant dans le Bombay Mix, c'est l'heure du documentaire Sari Bombay.